Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai désiré l'intelligence, elle me fut donnée. J'ai invoqué le Seigneur, et l'esprit de sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré à tous les royaumes et à toutes les puissances. J'ai estimé que, en comparaison d'elle, les richesses n'étaient rien. Je l'ai plus aimée que la santé, que la beauté, et je me suis proposé de la prendre pour lumière. Je l'ai étudiée sans déguisement, je la communique sans envie. Elle est un trésor inépuisable pour les hommes, et ceux qui l'utilisent deviennent les amis de Dieu. Ces paroles de l'épître de la messe de saint Thomas, tirées du livre de la sagesse, s'applique admirablement à notre saint. Saint Thomas en effet brillait par sa sagesse. Il l'a cherchée et il l'a trouvée, et il a vécu de cette sagesse, selon ses trois aspects. La pure sagesse humaine de la raison naturelle, qu'on appelle la métaphysique, de la sagesse humano-divine, qu'on appelle la théologie, mais aussi de la sagesse proprement divine, don du Saint-Esprit, qui nous fait goûter les choses de Dieu. Ces trois sagesses régnaient harmonieusement dans son âme, chacune à sa place, si bien que saint Thomas a réalisé pleinement l'idéal dominicain, qui est d'atteindre la perfection de la charité par l'étude vivifiée par une oraison pleine d'amour. Pour parvenir à une telle perfection, une âme, même prédestinée, a besoin d'une préparation. Alors voyons quelles sont ces préparations. Pour nous donner cette lumière qui devait éclairer l'Église pendant des siècles, il fallait que la graine soit plantée dans un bon jardin, fait de bonne terre, bien ensoleillée et bien arrosée. Pour cela, Dieu s'est choisi une famille profondément catholique. La mère de saint Thomas était connue pour sa grande dévotion, sa vie de prière et de pénitence. Sa sœur, Théodora, fut exemplaire en toutes les vertus et mourut en odeur de sainteté. Son corps fut retrouvé intact. Les frères de saint Thomas étaient d'un grand courage physique et d'une plus grande valeur morale encore. Ils défendirent avec zèle la Sainte Église contre l'empereur Frédéric, et deux d'entre eux subirent l'exil et le martyre pour le prix de leur fidélité. Quand un jardinier doit faire naître et grandir la graine d'une plante exceptionnelle, il est informé de la nature de cette graine par le fournisseur. C'est ce que Dieu fit pour beaucoup de grands saints. Et c'est ce qu'il a fait pour saint Thomas. Un frère renommé pour sa sainteté par les habitants de la région vivait en ermite avec quelques compagnons dans la montagne proche du château de Roccasecca où vivait la famille de saint Thomas. Inspiré par le Saint-Esprit, il vint trouver la comtesse Théodora et lui dit « Réjouissez-vous, car vous êtes enceinte et vous allez mettre au monde un fils que vous nommerez Thomas. Votre époux et vous voudrez en faire un moine de l'abbaye du Mont-Cassin, dans l'espoir d'obtenir d'importants revenus de ce monastère, grâce aux fonctions occupées par votre fils. Mais Dieu en décidera autrement, car il deviendra frère de l'ordre des prêcheurs. Durant toute sa vie, il brillera tellement par sa science et sa sainteté que de son temps, personne au monde ne pourra l'égaler. » Dame Théodora répondit, « Je ne suis pas digne d'engendrer un tel fils. Que Dieu agisse comme il plaira à sa volonté. » À la naissance de l'enfant, les parents lui donnèrent le nom de Thomas. Se rappelant les paroles de la prophétie, dès que l'enfant eut 5 ans, ils décidèrent de confier son éducation aux moines du Mont Cassin. L'abbaye du Mont Cassin serait la serre où le jeune Thomas, bien à l'abri des influences mauvaises du monde, croîtrait sans obstacle grâce à la lumière de l'enseignement des moines et à la chaleur de leur charité. En effet, l'âme du petit Thomas, avide de connaître Dieu, recevait les enseignements de ses maîtres sans obstacle, car il n'était pas dissipé ni bavard, mais calme, sans la légèreté de la jeunesse. Il faisait preuve de dévotion dans la prière et réfléchissait aux petites leçons données sur des feuillets. Ses maîtres étaient émerveillés de ses progrès. La jeune plante était suffisamment forte pour être transplantée dans un jardin. Ils conseillèrent donc les parents de l'envoyer étudier à l'université de Naples. Il part donc pour Naples à l'âge de 12 ans et il y étudiera brillamment jusque vers 17 ans environ. C'est à cet âge que Thomas, conscient des talents qu'il avait reçus de Dieu, jugea qu'il serait coupable de ne pas les faire croître dans un ordre religieux adéquat. Et la Providence le mit en rapport avec les frères du couvent de Naples, où il reçut l'habit. Thomas avait compris que c'est dans cet ordre qu'il trouverait la sagesse d'amour tant désirée, avec les trois fondements indispensables pour y parvenir, la pauvreté, la pureté et l'obéissance. C'est dans cet ordre religieux que pourrait avoir lieu le développement de cette sagesse. C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, la pauvreté volontaire. Plus tard, Thomas enseignera que les richesses servent peu à la vie contemplative. Elles sont plutôt un empêchement, car le souci qu'elles donnent gêne le repos de l'esprit. De nobles races, douées de qualités intellectuelles exceptionnelles, le jeune Thomas aurait pu avoir un avenir brillant selon le monde, posséder des richesses, administrer de vastes domaines, avoir des responsabilités dans la société civile. Il méprisa tout cela. Il préféra, comme Salomon, la sagesse aux richesses, et cela lui fut accordé. Voyons maintenant le deuxième fondement de la sagesse, la pureté. Pour que l'esprit puisse s'occuper de choses élevées, des choses de Dieu, les pénétrer, les comprendre, il faut qu'il soit pur, limpide comme une source dans une haute montagne. Il ne faut pas qu'il soit tiraillé et souillé par les désirs de la chair. Thomas, bien éduqué dans le milieu protégé de sa famille, très catholique, et de l'abbaye bénédictine, avait gardé une parfaite pureté de corps et d'âme. Mais Dieu souhaitait, par une épreuve, non seulement affermir cette pureté, mais lui accorder une grâce exceptionnelle. C'est le fameux épisode que vous connaissez certainement, où il a été enfermé, emprisonné dans le château familial par ses frères pour l'empêcher d'aller dans le couvent dominicain. Il a été emprisonné environ 2 ans. Alors ils ont essayé par tous les moyens, ses sœurs, ses frères, sa maman, de le faire changer d'avis. Ses frères eurent une idée un peu saugrenue. Ils firent entrer dans sa chambre pendant son sommeil une très belle jeune fille qui devait l'inciter au péché par toutes sortes de moyens. Thomas a environ 18 ans, il n'est pas insensible aux séductions et aux tentations. Mais il a toujours maintenu sa sensibilité sous l'empire de la raison. Alors, il réagit aussitôt. Il se saisit d'un tison dans la cheminée, chasse la jeune fille et trace sur le mur le signe de la croix. Puis, prosterné contre terre, en pleurant, il demande à Dieu la grâce de la virginité perpétuelle. Il prie pendant très longtemps, en pleurant, et puis il allait commencer à s'endormir quand deux anges lui apparaissent. Voici que de la part de Dieu, nous te saignons de la ceinture de chasteté que tu as demandée. Aucun asseau ne pourra la rompre. C'est un don de Dieu dans sa largesse. Cette grâce va lui permettre de se donner tout entier à la recherche de la sagesse et de l'aimer par-dessus toute chose. Thomas ne parla jamais de cette grâce de son vivant. Ce n'est que à sa mort que son compagnon et secrétaire, pendant une grande partie de sa vie, nous l'a révélé juste après sa mort. Voici ce qu'il dit à une assemblée, l'assemblée des frères et des fidèles qui étaient rassemblés juste après les obsèques de saint Thomas. Il a fait un grand discours pour exalter les vertus du saint et les miracles dont il a été témoin. Je viens d'entendre sa confession générale, juste avant de mourir. Je l'ai trouvé aussi pur qu'un enfant de 5 ans, qui n'a jamais connu la tentation de la chair et n'a jamais consenti à la moindre impureté. Après cet épisode de l'emprisonnement dans la tour du château familial, saint Thomas va être rendu enfin à l'ordre des frères prêcheurs et il va être conduit à Paris, puis ensuite en Allemagne, où enseigne un saint et un docteur célèbre, saint Albert. Et c'est là qu'il va s'exercer au fondement, au troisième fondement, l'obéissance. Saint Thomas a acquis la sagesse humaine en soumettant avec docilité son intelligence à l'être et au vrai des choses qui existent. De même, il a acquis la sagesse théologique par une parfaite docilité à toutes les sources de la vérité révélée. L'Ancien, le Nouveau Testament, les pères de l'Église, etc. Quant à la sagesse d'amour, don du Saint-Esprit, on ne peut pas l'atteindre sans l'obéissance. Et saint Thomas s'est montré d'une docilité parfaite au maître de la vie spirituelle, aux règles de son ordre, à leur interprète, à ses supérieurs. Ces trois fondements sont indispensables pour atteindre plus facilement la sagesse. Mais ils ne suffisent pas. Saint Paul nous met en garde contre la science qui enfle, car Dieu se cache aux sages et aux orgueilleux et se révèle aux humbles. Saint Thomas, justement, a brillé par son humilité. Devenu maître avant l'âge requis, il aurait pu s'enorgueillir, mais il donnera ce témoignage vérifié par les faits. Grâce à Dieu, jamais ma science, ma chair de maître, ni aucun acte scolaire ne m'ont donné aucun mouvement de vaine gloire. Et si un premier mouvement prévenant la raison s'est produit, je l'ai réprimé aussitôt par ce jugement même de la raison. Saint Thomas a brillé par son humilité dans les controverses, par la modestie de ses exposés, la douceur étonnante de ses réponses face à ses contradicteurs, qui étaient parfois violents et déloyaux. Il a toujours refusé les honneurs, notamment l'évêché de Naples que lui a proposé à plusieurs fois le pape. Dieu donne sa grâce aux humbles. Encore faut-il la lui demander. Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, dit le Seigneur. Saint Thomas a prié, il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse en priant avec larmes, en jeûnant. Il a passé des nuits en oraison silencieuse devant le crucifix, les lèvres collées sous les plaies du crucifix. ou alors devant le Saint-Sacrement, la tête appuyée contre le tabernacle. Après de telles supplications, Dieu lui envoyait des saints du ciel pour lui donner la solution des problèmes recherchés. Ainsi, une fois, à propos d'un passage d'Isaïe difficile qu'il n'arrivait pas à comprendre, son secrétaire, Rénal de Piperneau, l'entendit parler avec quelqu'un et fut requis pour noter ensuite la solution apportée par le mystérieux visiteur. Poussé par la curiosité, Rénal obtint du saint, à force d'insistance, de lui faire révéler ce qui s'était passé. Alors saint Thomas lui dit, « Tu as vu tous ces jours dans quelle affliction j'étais à propos de ce texte que je viens d'exposer, avec quelles larmes j'ai demandé à Dieu l'intelligence. Cette nuit, Dieu a eu pitié de moi. Il m'a envoyé les bienheureux Pierre et Paul, parce que je l'avais supplié, et ils m'ont tout appris. » Il y a encore eu d'autres passages comme cela où des saints du ciel sont venus lui révéler les difficultés. Saint Thomas est donc parvenu à une très haute sagesse. Il était souvent abîmé dans la contemplation. On pourrait dire, c'est un saint qui nous dépasse un petit peu, il est toujours un petit peu au-dessus des nuages. On pourrait croire que dans la vie concrète, il était très peu abordable. Pas du tout. Il était au contraire d'une grande simplicité, d'une compagnie très agréable. Un petit exemple, un petit épisode. Il devait se rendre dans un couvent et il a pris un bateau avec des frères pour remonter un fleuve. Et il ne devait pas y avoir de vent, ou je ne sais pas. Enfin, les marins ont été obligés de descendre sur le bord et puis de tirer le bateau avec une corde. Et puis, c'était difficile, il fallait remonter le courant, et il se lassait, le bateau n'avançait pas, et saint Thomas contemplait les choses. Et finalement, il se dit, je vais aller leur donner un coup de main. Donc, les marins avaient cessé de tirer le bateau, et lui, il a pris la corde, il a tiré le bateau tout seul, sur une grande distance, et si bien que les marins ont été encouragés, et ils l'ont rejoint pour l'aider à continuer. Saint Thomas nous a enseigné la sagesse qu'il a aimée, contemplée. Pourquoi cela? Eh bien, c'est pour que nous en vivions nous aussi, en pratiquant les vertus qu'il a pratiquées, la pauvreté, la pureté, l'obéissance, l'humilité, en combattant courageusement contre les erreurs de notre temps, en combattant dans les tentations. Alors, demandons à Dieu, avec l'oraison de la messe d'aujourd'hui, de comprendre avec notre intelligence ce qu'il a enseigné et de l'imiter et de faire ce qu'il a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.